Vous êtes sur RTL.
RTL Soir, Thomas Soto, bonsoir Thomas.
Bonsoir Myriam, bonsoir à tous et bienvenue dans RTL Soir. Au programme de ce mardi, Jean-Baptiste Djebbari, le ministre des Transports, au moment où Air France a encore besoin d'une perfusion à coups de milliards pour s'en sortir. Il sera avec nous à 18h15. Juste après, ce sera l'œil de Philippe Cavrivière, lui qui n'a jamais abdiqué ses rêves d'enfant et sait nous faire rire comme personne avec l'actualité. Et puis à 18h35, Robert Rue. Vous vous souvenez Robert Rue? Eh bien vous entendrez que de son passé, il n'a gardé que son collier de barbe et quelques envies bien ancrées de changer le monde. Bonsoir Olivier Bois.
Bonsoir à tous.
Découvrons avec vous les grands titres dans l'actualité de ce mardi 6 avril.
L'école à distance d'abord. Pour tout le monde aujourd'hui, il a fallu faire avec quelques bugs informatiques. On ira voir comment ça s'est passé pour une famille à côté de Lyon. Mais effectivement, vu le monde, les connexions étaient parfois très ralenties depuis ce matin, y compris quand le président de la République a tenté lui-même de se connecter en milieu d'après-midi. On vaccine au Stade de France ce soir encore. Il y avait du monde tout au long de la journée, nous dira Agathe Landais. Dans ce journal, 17 ans après la disparition d'Estelle Mouzin, les fouilles ont repris dans les Ardennes dans l'espoir de retrouver le corps d'Estelle Mouzin. C'est Monique Olivier, l'ex-femme de Michel Fourniret, qui une fois de plus guide les enquêteurs. Et puis le football, Bayern, PSG en Ligue des Champions, c'est demain. Vous entendrez comment se prépare Benjamin Pavard, le défenseur du club allemand, pour qui ce sera la revanche perdue évidemment pour le PSG de l'été dernier.
La météo, bonsoir Peggy Broche.
Bonsoir Thomas, bonsoir
à tous. Eh bien aujourd'hui il a fait froid, oui. Demain il fera bien froid.
Exactement, de l'été la semaine dernière, nous sommes passés à l'hiver et ça se confirme demain avec des gelées généralisées, des maximales bien loin des normales, de 7 à 11 degrés au nord jusqu'à 16 au sud. Côté ciel, un temps calme, souvent ensoleillé, sauf sur les frontières du nord, avec encore peut-être quelques flocons. Attention aux routes glissantes demain matin entre la Normandie et le Grand Est. Et puis le temps sera instable en Corse avec des averses orageuses en matinée et de la neige dès 500 mètres.
Merci Peggy.
RTL Soir.
12 millions d'élèves sont donc restés à la maison aujourd'hui pour ces 4 jours de cours à distance avant les vacances de Pâques. On a déjà connu ça au printemps dernier, cette équation compliquée quand en plus les parents sont en télétravail. Bertrand Frachon, vous avez passé l'après-midi, la journée avec une famille à côté de Lyon dans la ville d'Oullins. Comment ça s'est passé ?
Elliot est lycéen en seconde. Habitué des visios, il pensait pouvoir suivre ainsi son cours d'anglais aujourd'hui. Mais là, mauvaise surprise.
Donc j'ai essayé de me connecter sur le NT où j'ai tous mes devoirs et notamment le lien pour le cours en visio. Et ça écrivait qu'il y avait trop de connexions et que le serveur était indisponible pour le moment.
Sa sœur Zoé, elle, est collégienne en 5e. Impossible aussi de se connecter ce matin à la plateforme de l'établissement.
Ça ramait et puis après ça mettait qu'on ne pouvait pas accéder à l'ENT et que l'établissement il était informé. Aujourd'hui, ça marche pas, mais je vais quand même pouvoir travailler un petit peu.
Pomine, la maman s'interroge sur les leçons qui auraient pu être tirées des bugs du premier confinement.
Là, oui, je sais pas s'ils auraient pu anticiper effectivement que toute la France se retrouve en même temps sur les mêmes sites pour gérer l'école à la maison. C'est embêtant. Heureusement, il y a les vacances derrière et ils pourront peut-être faire ce qu'ils n'auront pas le temps de faire cette semaine ou qu'ils ne pourront pas faire tranquillement pendant les vacances.
En milieu d'après-midi, la connexion était de nouveau possible sur la plateforme du collège.
Merci beaucoup Bertrand Frachon. À propos de ces petits pépins techniques, je vous le disais, Emmanuel Macron a pu s'en rendre compte puisqu'il s'est connecté à 16h, très précisément, pour un cours à distance d'une classe de 3e des Alpes de Haute-Provence. Écoutez.
Bonjour, non mais je ne voulais pas vous interrompre, monsieur. Tout se passe bien ?
Oui, ça a été un peu compliqué techniquement.
Oula ! Au plan technique, au niveau national, il y a eu... apparemment des incidents et peut-être des malveillances. C'est important de...
Voilà, juste incident, malveillance. Vous avez entendu la qualité sonore de la réponse de l'enseignant,
c'est
Thomas.
C'est un coup de com raté, ça, on dirait.
Oui, surtout si on imagine une heure de cours dans ces conditions. Bonsoir Marie Guerrier.
Bonsoir.
On a entendu donc les mots du président, malveillance et difficultés techniques. Que s'est-il passé aujourd'hui?
Alors, deux problèmes. Le premier, le ministère de l'Éducation nationale parle lui aussi d'actes de malveillance. Plusieurs attaques simultanées sur les serveurs du CNED qui ont perturbé ce matin le fonctionnement de la plateforme du Centre national d'enseignement à distance. Et puis deuxième problème, dans plusieurs régions, impossible de se connecter à l'ENT, on l'entendait dans le reportage, c'est l'environnement numérique de travail, cette plateforme dont disposent les lycées, les collèges et certaines écoles primaires. L'ENT est géré par les collectivités locales, le département ou la région, qui travaillent avec des prestataires privés. Il y a l'éditeur de l'ENT, celui qui a conçu la plateforme. Alors il doit évaluer le nombre de connexions pour ensuite payer auprès d'un hébergeur des serveurs suffisamment puissants et une bande passante suffisamment large pour absorber le flux de demandes d'accès. L'un de ses éditeurs, Open Digital Education, reconnaît « Malgré notre anticipation, la charge était trop colossale ce matin ». Du côté des hébergeurs, OVH s'est montré du doigt. Une partie de ses serveurs a brûlé à Strasbourg le mois dernier, mais OVH fait remarquer qu'il n'héberge pas tous les ENT qui ont saturé ce matin. Donc responsabilité multiple, et il a fallu au cours de la journée redimensionner tout le système pour permettre la reprise progressive des connexions.
Merci beaucoup Marie Guerrier, spécialiste éducation à RTL.
On en vient à la campagne de vaccination. Le vaccinodrome du Stade de France est opérationnel depuis ce matin.
Oui, il symbolise la volonté affichée d'accélérer le mouvement dans les semaines qui viennent, une fois que les livraisons de doses seront plus massives. Agathe Landais, vous avez passé la journée à Saint-Denis, bonsoir.
Bonsoir.
Ça n'était pas l'affluence des soirs de match dans la vie d'avant, mais tout de même, il y avait du monde. Hein.
Oui, et depuis ce matin, il y a une file d'attente continue derrière les grilles du Stade de France. Eric est dans la queue, il vient de gagner dans le 93.
J'ai reçu un SMS de la Sécurité sociale qui m'a dit que je pouvais prendre rendez-vous, donc j'ai appelé, j'ai eu un rendez-vous pour aujourd'hui. Bah, je serai plus tranquille vis-à-vis de ma femme qui est très fragile, donc bon, c'est pour la bonne cause. Et puis voilà, la vaccination est ouverte, il faut en profiter.
Après parfois plus d'une heure d'attente dans le froid, on peut enfin accéder à l'intérieur, au sous-sol du Stade de France, dans une petite tente. Un pompier s'apprête à vacciner Habib, 43 ans.
C'est votre première injection, monsieur ?
Oui, c'est ma première.
Est-ce que vous êtes gaucher ou droitier, monsieur ?
Droitier.
Droitier, du coup, je vous conseille de le faire à gauche. On y va. Attention, je pique.
Ça fait même pas mal, j'ai rien senti. Voilà. J'ai un système immunitaire un petit peu faible et c'est pour ça que voilà, je ne veux pas prendre de risques.
C'est plutôt une bonne nouvelle, vous êtes soulagé en tout cas.
Oui, franchement. Même pour la famille, pour mes gosses, pour ma femme, pour tout le monde.
10 000 vaccinations vont avoir lieu au Stade de France cette semaine, mais il ne reste déjà plus de créneaux en ligne sur Doctolib. Le centre d'appel du département peut lui encore programmer un petit millier de rendez-vous d'ici samedi pour les personnes âgées de Seine-Saint-Denis.
Merci beaucoup Agathe Landais. Sur cette campagne de vaccination, vous savez qu'aujourd'hui 60% des plus de 75 ans sont traités, mais pour les autres, l'assurance maladie a passé 400 000 SMS depuis vendredi pour proposer des rendez-vous prioritaires. Et pour le moment, il n'y a eu que 10% de réponse.
Ah, il faut répondre aux SMS pour aller se faire vacciner, c'est important. Petite pause dans un instant, on va aller au chevet d'Air France avant de recevoir le ministre des Transports. A tout de suite.
RTL Soir.
RTL Soir, Thomas Soto.
18h08, la suite du journal avec vous Olivier Bois et ses nouvelles fouilles dans les Ardennes. Les gendarmes espèrent toujours retrouver le corps d'Estelle Mouzin.
Oui, la petite fille a disparu en 2003 à Guermantes. Michel Fournier est mis en examen désormais dans cette enquête. Jusqu'à maintenant, les fouilles qui ont été nombreuses n'ont jamais rien donné. Michel Fournier refuse d'être précis sur ce qui s'est passé. Samuel Goldschmidt, vous êtes sur place à Issancourt et Rumel. Pourquoi les gendarmes ont repris les fouilles précisément à cet endroit ?
Eh bien, c'est une nouvelle fois à cause d'indications de Monique Olivier, l'ex-femme de Michel Fourniret. La semaine dernière déjà, elle était présente lors de fouilles de l'autre côté du village qui n'ont rien donné. Ce week-end, selon son avocat, Monique Olivier a indiqué qu'elle avait des renseignements précis sur le lieu où a pu être enseveli le corps de la petite Estelle Mouzin. Ces indications sont prises avec sérieux, d'où ces fouilles aujourd'hui à l'autre extrémité d'Issancourt. On a aperçu plusieurs véhicules techniques de la gendarmerie sur un chemin forestier qui disparaît dans une forêt. Des militaires spécialement formés à la recherche et à la préservation d'indices ont travaillé sans engin de chantier cette fois. Issancourt est pile entre le château du Sautou, ancienne propriété de Michel Fourniret, et Ville-sur-Lume, le village où Michel Fourniret avait séquestré Estelle Mouzin dans une maison. C'est un périmètre assez petit, hein, 8 km d'un point à l'autre, où les fouilles se succèdent depuis 10 mois maintenant, sans succès. Mais toujours sur les indications de Monique Olivier, c'est elle qui avait craqué après 120 interrogatoires en juin 2004 et révélé une partie du parcours criminel de son ex-mari Marie rompant leur pacte. Monique Olivier a accompagné ou aidé Michel Fourniret dans au moins 5 des 7 meurtres pour lesquels le tueur en série a déjà été condamné.
Les précisions sur place de Samuel Goldschmidt. L'économie maintenant avec Air France. Pour aider Air France, l'État va pouvoir monter au capital à hauteur de 30% de l'entreprise. Conséquence de l'aide directe de 4 milliards d'euros qui a été validée par la Commission européenne. En échange, la compagnie va devoir faire de la place à la concurrence à Orly en cédant 18 créneaux horaires d'atterrissage et de décollage. Écoutez la réaction d'Yves Joulin, président du syndicat UNSA Air France.
Je pense que l'horizon est dégagé pour l'année 2021 puisqu'on avait entendu parler
que si aucune solution n'était trouvée au niveau de la recapitalisation, la fin de l'année 2021 serait compliquée, puisque Air France aurait pu manquer de liquidités. Mais quid de ce qui va se passer d'ici 2 ans, si malheureusement, au vu de la crise du Covid, le transport aérien ne repart pas. C'est un accord un peu fragile, aucune garantie sur le long terme, et c'est ça la grosse question.
Voilà, propos recueillis par Eric Vanier, on en parlera évidemment dans quelques minutes avec Jean-Baptiste Djebbari. Jean-Baptiste Djebbari, le ministre des Transports, qui avait jugé très sévèrement les propos de la maire écologiste de Poitiers, Léonore Monconduit.
Oui, qui elle, en substance, estimait, vous vous en souvenez, que les enfants ne devaient plus rêver d'avion. Jean-Baptiste Djebbari avait dénoncé aussitôt sur Twitter, je cite, des élucubrations autoritaires et moribondes. Eh bien, en exclusivité pour RTL, la maire de Poitiers lui répond à son tour.
C'est très politique, dans le sens où les leaders d'opinion qui se sont exprimés contre mes propos sortis de leur contexte le faisaient souvent dans un but bien précis, qui est de décrédibiliser les mairies écologistes. On monte en épingle des petites phrases dans l'unique but de nous déstabiliser. Mais je comprends encore une fois qu'une grande partie de la population puisse être sensible à cette question de l'aérien. La prise en compte du changement climatique va bouleverser nos habitudes. Certaines sont plus difficiles à questionner que d'autres. Le transport en avion en fait partie, j'en suis pleinement consciente.
Léonore Monconduit, la maire de Poitiers, qui regrette tout de même d'avoir été mal comprise. Elle l'a dit donc dans cette interview que vous retrouvez en longueur demain matin sur RTL. Elle répondait à Christian Panvert.
Et demain, il y aura aussi du foot, du foot, la Ligue des Champions, avec ce match entre le PSG et le Bayern de Munich à 21h.
Oui, quart de finale aller de la Ligue des Champions, revanche de la finale perdue par le PSG l'été dernier. Le Bayern a été le premier à dégainer cet après-midi sa traditionnelle conférence de presse et c'est Benjamin Pavard, le défenseur du club allemand, qu'on écoute.
On avait des matchs importants avec l'équipe de France, donc il fallait se concentrer plutôt sur ça. Mais c'est vrai que pour eux, je pense que ça va être une revanche, comme on a gagné la finale. Mais voilà, on est plutôt serein. On a 2 matchs à disputer et 2 victoires à faire. Je pense que c'est du 50-50. On s'attend à deux gros matchs face à une grande équipe. Donc pour moi, c'est du 50-50. Et voilà, la seule réponse à ça sur le terrain, il faudra être présent pendant ces 2 matchs.
Benjamin Pavard, donc le
il
match.
Il vaut mieux être présent pendant les 2 matchs.
Oui, exactement. Important. Le match, c'est demain à 21h. Et puis, il y a d'autres matchs ce soir, le début des quarts de finale. Allez, donc, 21h, Real Madrid-Liverpool, sans le français Raphaël Varane pour le Real, puisqu'il est positif à la Covid. Et puis, il y a Manchester City face au Borussia Dortmund.
Il y a de la Coupe de France aussi.
Coupe de France aussi.
Monaco-Metz.
18h45, on va le suivre évidemment sur RTL. Ce sera évidemment Monaco, Metz, vous venez de le dire.
RTL Soir,
voilà la bonne nouvelle
du jour.
Bon, alors la bonne nouvelle, c'est toujours du football, Thomas. C'est cette vie qu'on rêve un peu plus normale. On ne sait pas exactement quand, mais en tout cas cet été, vous savez qu'il y a l'Euro de football, évidemment, ouais, en Allemagne. Et les Allemands sont très intéressés par avoir du public. Et ils viennent de proposer un plan très précis, notamment Munich, pour qu'il y ait des spectateurs pour pouvoir assister au stade de foot, au match de foot. Et ça pourrait donner ça. Vous reconnaissez ce bruit ?
Ça date de la préhistoire, ça.
Ça date de la préhistoire.
Hein, s'il y a un but, ça faisait comme ça, je crois.
Ce sera peut-être le cas cet été, parce que pour le moment, il y avait surtout bien, des ambiances enregistrées, ça faisait quand même pas pareil.
Okay, voilà. Ça serait bien. Occasion ratée, ça donne ça. Occasion ratée, regardez. Oh, allez, ça va revenir. Courage. Merci Olivier, à tout à l'heure.
À tout à l'heure.
Air France qui ne sort pas de ses turbulences, on en parlait à l'instant tout de suite. Le ministre délégué au transport, Jean-Baptiste Djebbari, l'invité d'RTL Soir.
RTL Soir, Thomas Soto. RTL Soir, Thomas Soto.
Il est le ministre délégué au transport, Jean-Baptiste Djebbari, donc l'invité d'RTL Soir. Bonsoir et bienvenue à vous, Jean-Baptiste Djebbari.
Bonsoir à vous.
On a beaucoup de sujets à voir avec vous. D'abord Air France. Air France placée sous respirateur étatique pour la 2e fois en 1 an. Le gouvernement vole au secours du groupe Air France KLM, très secoué par la crise. Concrètement, un prêt de 3 milliards va se transformer en aide directe de l'État. Et par ailleurs, ce même État va injecter 1 milliard pour monter au capital et devenir le premier actionnaire du groupe. Ça peut donner l'impression de renflouer un bateau qui coule. Est-ce que le salut, la seule chance d'Air France passe par une forme de renationalisation partielle et progressive?
Non, c'était nécessaire. Effectivement, dans le cadre, dans la situation que connaît la compagnie Air France KLM, le groupe Air France KLM aujourd'hui, c'était nécessaire de le faire maintenant, de manière à ce que le groupe puisse envisager l'après-crise de façon sereine sur le plan financier.
Et là, c'est le cas. Là, c'est le cas, honnêtement. Quoi qu'il arrive, Air France est sauvé.
D'abord, il y a eu 7 milliards l'an passé, oui, dans le moment le plus aigu de la crise, avec 80% d'activité en moins. Aujourd'hui, effectivement, dans le cas des restrictions qu'on connaît, l'activité reste très réduite. Mais oui, ça permet de s'assurer un horizon de 18-24 mois qui nous permettra de connaître l'après-crise, qui permettra de voir revenir les passagers dans les vols, qui permettra aussi d'amorcer la grande transition écologique dans laquelle le groupe est impliqué, qui permettra aussi de finir la restructuration qui avait commencé avant Covid.
Alors justement, ça c'est intéressant parce qu'en contrepartie de toutes ces aides, Air France va devoir faire des efforts de compétitivité. Ça veut dire quoi concrètement?
Ça veut dire d'abord un effort de transformation. Ça veut dire que le groupe, avant même le Covid, était en restructuration parce que sur son réseau domestique, par exemple, il subissait des pertes immenses. Et pérenne pour le coup. Donc il avait commencé à faire monter sa filiale Transavia notamment vers Orly. Et puis il y a un plan de départ. À ses personnels des efforts considérables avec des plans de départ volontaires qui ont été négociés, qui vont s'appliquer.
Est-ce qu'il va falloir aller plus loin, Jean-Baptiste Djebari? Est-ce que la France va devoir supprimer davantage de postes?
Écoutez, moi je ne veux pas faire de prédiction ici aujourd'hui, mais ce que je constate c'est
Mais c'est dans le deal ou pas?
Non, c'est pas dans le deal.
C'est pas dans le deal.
C'est pas dans le deal. Ce que je constate c'est que il y a un appétit pour le voyage. Nous verrons bien ce que l'été nous réserve en termes de déplacement. Il y aura aussi des opportunités pour Air France KLM. La crise est dure pour tout le monde. Il y aura très certainement des faillites et donc des opportunités de consolidation pour le groupe Air France KLM. Raison pour laquelle notre compagnie aérienne nationale, systémique en quelque sorte, devait être soutenue et doit pouvoir se projeter dans un avenir qui sera évidemment plus rose que celui qu'elle connaît actuellement.
Et Air France KLM est à l'abri de ces faillites que vous évoquez?
Oui, elle est à l'abri de ces faillites que j'évoque. Je l'ai dit, et je l'ai plaidé d'ailleurs devant la Commission européenne. C'est un groupe, c'est une compagnie aérienne systémique. C'est un actif stratégique national. Nous avons besoin de connectivité de la France vers le reste du monde et c'est Air France KLM qui aujourd'hui fait cet office pour cette partie de l'Europe.
Alors, c'est intéressant ce que vous parlez de la Commission européenne. Elle a mis des exigences à la validation de ce plan de secours pour Air France. Air France va devoir abandonner des créneaux, 18 créneaux. En clair, c'est des vols en moins. Mais là, on se dit que c'est compliqué parce que vous aidez une compagnie d'un côté et dans le même temps, vous lui coupez les pattes en lui supprimant des vols parce que des vols en moins pour une compagnie, ça veut dire du chiffre d'affaires en moins. Quelle est la logique de tout ça? J'en comprends pas très bien.
D'abord, tout c'est une question d'équilibre. Il y a des règles européennes, j'y reviendrai peut-être plus tard. Il faut les respecter. Peut-être qu'il faudra les faire évoluer d'ailleurs, ces règles européenne. Moi, je plaide plutôt en ce sens. En l'occurrence, elles ont été respectées telles qu'elles existent en l'état.
Mais elles vous conviennent, vous, ces règles, aujourd'hui?
Je vais revenir, mais d'abord, ce qu'on a fait dans le cadre de l'accord, on a fait en sorte, ce qui n'a jamais été fait, que le droit social soit respecté. Autrement dit, un opérateur qui viendrait, une compagnie aérienne qui viendrait opérer à Orly sur un créneau restitué par la France KLM devra respecter les règles européennes.
C'est-à-dire, en clair, que ça sera pas Ryanair, c'est ça?
Autrement dit, toutes les compagnies qui ont été condamnées, qui ne respectent pas ou qui exploitent des zones grises du droit européen ne pourra pas acquérir ces créneaux. Et
donc aujourd'hui, ça ne peut pas être Ryanair.
Mais typiquement, ces compagnies qui ont été, je ne vais pas citer à dominem des compagnies, elles sont plusieurs d'ailleurs, mais toutes les compagnies qui ont été condamnées, qui ont fait œuvre de souplesse dans l'interprétation du droit européen,
ne récupéreront pas les créneaux d'Air France.
Et ne pourront pas les exploiter.
Et vous êtes d'accord pour dire que la Commission européenne affaiblit Air France avec ses exigences?
Non, moi ce que je dis, c'est qu'on ne peut pas reprocher à la Commission européenne d'appliquer les règles telles qu'elles sont aujourd'hui. Je constate que dans le secteur des transports, depuis maintenant 20-25 ans, on fait ce qu'on appelle l'ouverture à la concurrence, la libéralisation. Parfois ça marche. Le transport aérien, il y a des excès, mais ça a plutôt bien marché. Le transport routier de marchandises, pas tant que ça pour les opérateurs français. Le transport ferroviaire, parfois ça marche, il y a une partie du fret ferroviaire, parfois pas. Donc on doit entrer dans un bilan critique de ce qu'est la concurrence appliquée au transport, à l'énergie. Et la Commission européenne, c'est l'émanation des États. Donc à la fin de la fin, on aura des débats politiques en France en 2022, on pourra poser des idées. Moi, je plaide pour qu'on revoie un certain nombre de règles s'agissant de la concurrence européenne.
Il faudra changer les règles.
Et je pense que les traités, ça sert à ça. Les traités, ça sert
à assouplir. Il faudra laisser plus de marge de manœuvre aux États, c'est ça ce que vous sous-entendez?
En tout cas, il faudra faire un bilan critique de l'ouverture à la concurrence sur tous les secteurs qui n'aura pas été qu'une réussite. Et d'ailleurs, vous savez, la semaine dernière, j'ai rallié 16 pays européens pour le fret ferroviaire, pour sortir une partie du fret ferroviaire, 10%, qui sont des actifs stratégiques, mais qui n'entrent pas dans le champ pertinent de la concurrence tel que nous le comprenons. Et j'ai rallié 16 pays sur 27.
Donc, en creux, dans ce que vous dites, j'entends que vous n'êtes pas complètement satisfait des exigences qui vous ont été imposées par la Commission européenne. Je me trompe ou pas?
Non, moi je pense que la crise, elle exacerbe ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Et qu'une des leçons qu'on doit tirer de la crise, c'est que quand ça ne fonctionne pas, on change les règles. On n'essaie pas de faire semblant que ça marche bien. On change les règles. Et moi, je pense que sur un certain nombre de sujets, on devra changer les règles. En tout cas, c'est ce que moi, je porterai modestement dans le débat public à l'aune de 2022, par exemple.
Alors, on n'en est pas encore à 2022.
C'est loin.
Est-ce qu'on pourra, Jean-Baptiste Djebari, prendre l'avion librement cet été pour venir en France? Et est-ce qu'on va accueillir des touristes étrangers qui viendront en avion?
C'est tout l'enjeu de ce qu'on met en place avec le pass sanitaire, d'essayer d'avoir un objet, en tout cas une application qui nous permette, sur un même format mobile, d'avoir à la fois notre certificat de vaccination quand on est vacciné, notre test PCR, éventuellement un certificat pour attester de la sérologie, et donc de sécuriser les flux. L'objectif, c'est d'avoir un été le plus normal possible, et ça passera évidemment par cette dimension-là, technologique. Il y a beaucoup d'initiatives, notamment de la Commission européenne. La France, et j'anime au niveau du ministère des Transports un groupe de travail sur le sujet. Ouais. Et l'idée, c'est d'avoir pour l'été, mais ça nécessite de se préparer maintenant, une application qui permette de sécuriser nos déplacements.
En tout cas, on n'est pas comme les Italiens, on ne dit pas zéro touriste étranger. Ce n'est pas l'objectif.
Non, mais par contre, des flux de transport sécurisés sur le plan sanitaire, c'est l'objectif d'avoir cet été le plus normal possible. Et puis après, d'aller vers le mieux avec les progrès rapides de la vaccination.
Avant de passer de l'avion au train, encore une dernière question sur Air France. Parmi les efforts que devront faire les uns et les autres, est-ce qu'il y aura des bonus pour les dirigeants d'Air France cette année ?
Écoutez, je crois que ce n'est pas prévu, vu les résultats qui sont bien souvent indexés à la performance économique de l'entreprise, mais nous
aurons... On sait souvent que les bonus peuvent passer par des chemins de traverse. Est-ce que vous êtes opposé au fait que les dirigeants touchent des bonus ?
Je fais référence au bonus de l'an passé qui était indexé sur l'activité de 2019 qui était positive. C'est ça qui avait généré un peu ces émois à l'époque. Cette année, l'activité, la performance sera indexée sur l'année précédente qui, vous l'aurez compris, a été catastrophique sur le plan financier.
Donc il n'y aura pas de bonus.
Cette question ne se posera pas.
Les règles sanitaires en vigueur permettent, par exemple, aux parents d'emmener leurs enfants chez les grands-parents. On passe au train à présent, partout dans le pays, pendant ces vacances scolaires de Pâques. Évidemment, c'est aussi la porte ouverte à tous les abus. Est-ce qu'il y aura des contrôles aux embarquements des trains, Jean-Baptiste Djebari, dans les jours qui viennent ?
Il y a des contrôles aléatoires qui peuvent se faire à l'embarquement ou au débarquement des trains.
Oui.
Et nous avons eu ce week-end, sur les jours dits de tolérance, un peu plus de 650 000 voyageurs. Pour le comparer, c'est moitié moins que pour le même week-end il y a deux ans, en 2019.
650 000 voyageurs pour le week-end de Pâques.
Absolument.
D'accord.
Deux fois moins qu'en 2019 à la même époque. Ça vous donne quand même un élément de comparaison. Et d'une manière générale, quand on observe ce mois d'avril comparé au mois d'il y a deux ans, c'est 70% de réservations en moins. Donc on voit que les restrictions, elles ont quand même un impact qui est significatif. Mais pour autant, nous avons voulu cette période de tolérance pour que les familles puissent s'organiser, parce que les restrictions, elles posent la question de l'organisation des familles.
Bien
et
sûr,
nous avons voulu l'organiser en bon ordre plutôt que de le subir. Et je crois que c'est ce que nous avons réussi à faire collectivement.
Vous allez réduire le nombre de trains dans les semaines qui viennent ou pas ? Ou c'est pas prévu ?
Si, nous allons adapter l'offre en lien avec la SNCF. Nous ferons un point en milieu de cette semaine, donc mercredi après-demain.
Faites attention, ne ratez pas le rendez-vous, c'est demain.
Ça, c'est le fameux lundi fermier. Et nous aurons donc à adapter l'offre comme nous l'avons fait.
Une réduction de quel ordre, quel volume ?
Là, nous avons 6 TGV sur 10. On va regarder finement la fréquentation, parce qu'il y a les effets effectivement de fréquentation moyenne et les effets de pointe. Et vous savez qu'on est souvent aussi, à juste raison, on nous demande d'avoir des TGV aux heures de pointe, donc ça nécessite de maintenir une offre qui soit cohérente.
Et si on baisse et qu'on est à 6 sur 10, on sera à moins d'un sur deux, en fait. Hein.
On sera très certainement à moins d'un sur deux pour les prochaines semaines.
Et le Paris-Nice de nuit qui devait démarrer le 16 avril, il reste d'actualité ou pas ?
Alors, c'est aussi une des questions qu'on a, c'est de le maintenir. On n'a pas encore tranché ce sujet. On pense qu'on aura évidemment beaucoup moins de personnes le 16 avril. Et donc, il y a plusieurs options, notamment de le reporter au 13 mai, mais c'est une discussion que nous avons avec la SNCF actuellement.
Qui n'est pas tranchée encore.
Qui sera tranchée dans la semaine.
Alors, il y a ceux qui prennent l'avion, ceux qui prennent le train, et puis il y a ceux qui se déplacent par la route. Un député de votre majorité, Julien Borowczyk, a déposé une proposition de loi pour que les automobilistes payent l'autoroute moins cher quand elle est en travaux. Est-ce que vous y êtes favorable ?
Je comprends le bon sens qui s'exprime, mais j'y suis plutôt défavorable pour plusieurs raisons. D'abord parce que quand vous définissez un contrat avec une société concessionnaire, vous définissez y compris des travaux.
Ouais.
Et vous anticipez les travaux. Et les travaux, ça permet aussi de régénérer l'état de l'infrastructure, de sécuriser les déplacements des usagers. Et donc, ces travaux, ils font partie intégrante de la concession.
Donc, pas question de baisser le prix du péage à ce moment-là.
Non, sinon, ça remet en cause d'abord tous les contrats qui ont été passés. Et puis, j'ai quand même regardé un peu ce qui avait été fait dans les autres pays européens, notamment. Aucun pays n'a mis en place ce type de dispositif.
Donc, ça, c'est non. À propos d'autoroutes, certaines concessions d'autoroutes vont être rediscutées, vont arriver à échéance courant 2025, je crois. Des concessions qui ont été parfois jugées très, voire trop avantageuses pour les groupes qui en ont bénéficié. Est-ce que vous souhaitez tout remettre à plat et renationaliser peut-être certaines autoroutes ?
D'abord, ce sera remis à plat, puisque les plus grosses concessions arrivent à échéance entre 2031 et 2036.
Ouais.
Pour les infras, c'est demain, parce qu'en fait, à partir de 2025, il va falloir trouver de nouveaux modèles économiques. Et moi, j'ai été le député qui a apporté des propositions sur le sujet. Donc, je n'ai pas changé d'avis comme ministre. Je pense qu'il faudra avoir ce débat, peut-être d'ailleurs à l'occasion de 2022. À l'arrivée.
Vous êtes déjà en campagne, hein, ça fait deux fois que vous nous parlez de 2022.
Moi, je suis anticipateur. Je prévois la suite et le monde change vite. Et il faut anticiper un peu. Non, ce que je pense, c'est que en 2032, entre 32 et 36, tout revient dans le giron de l'État. Donc ça veut dire que dès maintenant, il faut s'organiser pour savoir comment on opérera, est-ce que l'État opère en direct, est-ce qu'il redéléguera à des concessionnaires. Bon bref, tout ça, et dans quelles conditions ? Puisqu'en fait, souvent le sujet, ça n'a pas été tant le fait qu'il soit délégué, mais la façon dont les marges et les taux de retour sur investissement ont été conçus. Donc tout ça, ce seront des beaux débats politiques.
Il faudra tout remettre à plat.
De toute façon, mécaniquement, si je puis dire, entre 31 et 36, on aura ce sujet devant nous, ça s'anticipe dès maintenant, et donc il faudra avoir ce débat rationnel et éclairé.
Dernière question, vous êtes pilote d'avion, c'est triste, mais l'aérienne ne doit plus faire partie des rêves d'enfants aujourd'hui, a dit la maire Europe Écologie Les Verts de Poitiers, qui a décidé de ne plus subventionner deux aéroclubs de la ville. Ça vous a indigné, vous l'avez fait savoir sur Twitter, en citant notamment du Saint-Exupéry. Petite question simple, est-ce que le ministère des Transports pourrait subventionner les clubs aéronautiques que la ville de Poitiers ne veut plus aider?
C'est une bonne question. Alors je crois que, pour le coup, c'est la subvention à des associations qui font des baptêmes, notamment pour les personnes handicapées, en l'occurrence. Et donc ça ne relève pas strict au sens du ministère.
Mais il y a toujours moyen de trouver des passerelles.
Mais vous savez, il y a ce qu'on appelle le brevet d'initiation aéronautique. Ça permet à tous les enfants, d'ailleurs de tous les âges, d'avoir une première expérience avec l'aérien. Et c'est fantastique d'apprendre à voler, de se confronter aux éléments, de comprendre la météo. Voilà. Ça permet, c'est une grande école de l'humilité. L'aérien. Et donc je conseille à Madame la maire de Poitiers de s'y rendre et de parler à ces gens qui sont souvent aussi des gens passionnés, qui sont souvent, comme la majorité des Français, écologistes, qui ont une vision écologique et qui sont engagés dans la transition, mais qui n'ont pas cette vision autoritaire et décroissante d'une frange des écologistes politiques radicaux qui considèrent qu'il faut interdire aujourd'hui l'avion, demain votre consommation sur Internet, après-demain contrôler les rêves. Je crois que ce sont des projets qui sont régressif et assez angoissant. En tout cas, moi, je ne partage pas du tout, vous l'avez compris, cette philosophie et ce projet de société que je devine de façon sous-jacente.
On peut être ministre des Transports, pilote d'avion soi-même et écolo ?
Je crois que la très grande majorité des Français, des pilotes, des ministres... Ah, mais moi, je suis comme tout le monde, un converti, parce que je crois que j'ai été élevé dans les années 80 où ces préoccupations n'étaient pas les premières, mais qu'aujourd'hui, le sujet de l'écologie... C'est plus le sujet de quelques écolos radicaux. C'est un sujet de société, nous y sommes tous engagés, les investissements sont considérables et nous la réussirons ensemble, mais pour un projet de liberté, pas pour un projet de régression.
Merci beaucoup Jean-Baptiste Djebari d'être venu ce soir dans RTL Soir. À suivre, il s'est installé dans le studio, c'est Philippe Cavrivière et son œil. Bonsoir Philippe. On vient de parler de la maire de Poitiers, Léonore Monconduit, et de sa phrase, l'aérien ne doit plus faire partie des rêves des enfants.
Oui, Charles Martel a arrêté les Arabes à Poitiers. Léonore Monconduit va tenter d'arrêter les avions. Alors je sais pas, peut-être avec un filet à papillon ou une espèce de grosse épuisette, je sais pas comment. Elle va galérer, la pauvre. Donc je résume le programme des écolos. On vire les steaks des cantines, les sapins de Noël et les rêves de pilote. Mais à part faire chier les mômes, vous voulez pas avoir d'autres idées, par exemple ?
Et vous dites ça sans partie parce que vous avez un masque vert, pour ceux qui nous regardent sur RTL.fr. Merci, à tout de suite, Philippe.
RTL Soir. RTL Soir avec Thomas Soto.
Et Olivier Bois pour le rappel des titres.
Et d'abord, la première journée de cours à distance, un peu compliquée. 12 millions d'élèves sont restés à la maison donc pour ces 4 jours de cours à distance. Les serveurs du CNED ont été victimes de cyberattaques. Certains serveurs étaient également un peu sous-dimensionnés pour absorber autant de connexions. Le trafic a été ralenti. Le vaccinodrome du Stade de France à Saint-Denis en région parisienne a commencé à fonctionner aujourd'hui. Il y avait les files d'attente. Une quarantaine de vaccinodromes de ce genre va se mettre en place pour accompagner l'accélération attendue de la campagne de vaccination. Aider Air France était une nécessité pour envisager sereinement l'après-crise. Voilà ce qu'est venu dire à l'instant sur RTL le ministre délégué au transport Jean-Baptiste Djebari. L'État va monter au capital à hauteur de 30% de l'entreprise, conséquence de l'aide directe de 4 milliards d'euros. En échange, la compagnie va devoir faire de la place à la concurrence à Orly. Les fouilles ont repris dans les Ardennes. Les gendarmes espèrent retrouver le corps d'Estelle Mouzin, disparue en 2003 à Guermantes. C'est sûr, de nouvelles indications de Monique Olivier, l'ex-femme de Michel Fourniret, que ses fouilles ont repris à cet endroit des Ardennes où a séjourné le tueur en série. Et puis le football, ce soir d'abord c'est la Coupe de France, début des huitièmes de finale, Monaco-Metz, coup d'envoi à 18h45. Il y a la Ligue des Champions également, quart de finale, aller Real Madrid, Liverpool et Manchester City, Borussia Dortmund ce soir, avant le match de demain, Bayern-PSG à 21h demain soir.
Merci Olivier. La météo, Peggy, demain ça va encore piquer.
Et oui, des gelées généralisées, au nord comme au sud, comme ça passe. De jaloux, des maximales qui grimperont pas bien haut, comprises entre 7 et 11 degrés au nord jusqu'à 16 au sud. Globalement, une journée ensoleillée avec un peu plus de nuages à l'est et sur les frontières du nord et quelques flocons le matin. Attention au risque de verglas entre la Normandie et le Grand Est et un temps instable en matinée en Corse avec des averses orageuses et de la neige à basse altitude.
Merci Peggy. Alors nous y voilà. L'œil de Philippe Cavrivière, comme chaque mardi, comme chaque jeudi. Ouais. Bonsoir Philippe,
bonsoir. Bonsoir à tous.
Ce troisième confinement vient de commencer. J'ai envie que. Parlez de vous un peu, donnez-nous un peu de vos nouvelles. Comment ça va, Philippe ?
Écoutez, déjà merci Thomas de cette demande écrite par mes soins, mais délivrée avec une spontanéité qui dupera seulement nos auditeurs les plus cons. Ils sont à peu près une douzaine. On a 1 million, très bien, on a 12 retardataires. C'est donc le début d'une période de 4 semaines. Alors j'ai entendu sur BFM qu'on rentrait dans le dur. Alors c'est bizarre parce que j'ai l'impression qu'on y était déjà depuis une petite année quand même.
C'est pas fou, ouais.
Mais soyons positifs, ce week-end était le dernier de tolérance où on pouvait emmener ses enfants à ses grands-parents. Alors j'en ai profité pour descendre les miens dans le sud. Et là, c'est là, sur la route à hauteur de Lyon, je me suis dit, tiens, ils sont bien calmes, je les entends pas. Je me retourne dans la voiture et là, je réalise que j'ai pas du tout d'enfants. Donc j'arrive dans le sud et distrait que je suis, je me rappelle que mes grands-parents sont décédés tous les deux. Et alors du coup, je suis resté au soleil pour le week-end, d'où ce teint magnifique.
Bien sûr. Donc pour dire les choses un peu familièrement, vous n'aviez rien à foutre à Saint-Raphaël.
Rien du tout.
Et vous réglerez donc 135 euros la marée chaussée, s'il vous plaît.
Avec joie.
Parlons de l'actualité. Donc Emmanuel Macron veut vacciner 30 millions de Français d'ici cet été.
Oui, il veut vacciner 30 millions de Français avant la fin de l'été, oui. Il veut se faire 30 millions d'amis. Ça fait du bien d'entendre ça.
Ah, c'est bien,
ouais. Bon, avant, il nous prenait pour des mômes. Maintenant, il nous prend pour son kleps. Je ne sais pas si on gagne au change. Son mouvement, c'était en marche. Maintenant, c'est au pied couché. Bon, il va sûrement nous abandonner en descendant à Brégançon cet été sur une aire d'autoroute.
Ah oui.
Et en 2022, on se fera récupérer par une dame blonde qui n'aime que les bergers allemands, n'est-ce pas ?
Vous êtes de mieux en mieux en imitation, je
vous jure. Bon,
restez positif, Philippe. La vaccination accélère. L'armée et les hôpitaux militaires sont maintenant mobilisés.
Ben oui, mais ça va faire des anecdotes bizarres dans les salles d'attente. Moi, j'ai perdu un bras à Damas, embuscade. Moi, j'ai perdu une jambe à Bamako, attentat à la voiture piégée. Et toi ? Ben moi, j'ai perdu le goût et l'odorat à Plougastel lors d'une chasse aux œufs. C'est moins spectaculaire.
Nettement moins. On en vient au quotidien des Français. Est-ce que vous avez saisi, vous, les nouvelles règles, Philippe ? Parce que vous êtes un esprit éclairé.
Écoutez, je crois que oui, on a le droit de se promener masqué pour aller voir les grilles des magasins fermés ou des musées fermés, hein, si vous êtes plus culture. Et on peut sortir avec son chien. Alors, si vous êtes seul, prenez un justificatif de domicile. Donc, je vous conseille toujours de vous balader soit avec une facture EDF, soit avec un teckel. Et prenez la facture du teckel. On ne sait jamais si vous tombez sur un flic tatillon. Par contre, on ne peut plus consommer d'alcool en extérieur. Oui, pendant le week-end de Pâques, on pouvait prendre 135 euros d'amende pour consommation de mon chéri sur la voie publique. C'est sévère, ils sont sévères en ce moment. Alors, certaines consignes sanitaires, par contre, du gouvernement restent floues pour moi. Quand ils nous disent « aérez chez vous », alors, ils sont mignons, mais aérer chez les autres, ça s'appelle un cambriolage, en fait.
Ah bah oui,
c'est interdit.
Justement, à propos de cambriolage, parlons de Bernard Tapie et de son épouse qui ont été cambriolés, surtout honteusement agressés. On leur a volé quelques bijoux et, je crois, une Rolex.
Oui, on est tous écœurés par la violence des quatre agresseurs. Taper un papy souffrant d'un cancer, un monsieur de 78 ans et son épouse, c'est idiot. Alors qu'il suffisait de leur tousser dessus pour leur faire peur. Et vu le courage des cambrioleurs, leur prochaine victime, on le sait, c'est Philippe Croizon. Hein, on te prévient, Philou. Au moins, ils ne lui piqueront pas sa montre.
Ah
lui. Bah oui, vu que... Oh chérie, j'ai encore perdu ma gourmette. Bah oui, mais tu n'as pas de bras, mon amour. Donc fais attention, garde le bras en l'air.
Bon. Bon, on finit avec la polémique de la semaine. Des ministres auraient participé à des dîners dans des restaurants clandestins, notamment chez le collectionneur d'art un peu illuminé, Pierre-Jean Chalençon.
Darmanin, il n'était pas content. Hein. Des dîners sélects dans des endroits cosy, une clientèle triée sur le volet, des chandelles et des gens qui gardent leur froc. Darmanin aurait dit « Je ne comprends pas l'intérêt de cette soirée ». Alors, une enquête a été diligentée. Faut pas mettre le J avant, sinon ça ne veut plus rien dire. Voilà, il y a une enquête, quoi. Alors, qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ils vont passer toutes les cravates des ministres au luminol en espérant retrouver de la Macédoine à 80 euros ? Je viens de retrouver une nappe avec des traces de cassoulet, paella et de Paris-Brest. Ce n'est pas une nappe, Horatio. C'est la cravate de Gérard Larcher. Alors, le personnage central, c'est Pierre-Jean Chalençon. Vous voyez sa tête. C'est Michel Polnareff qui aurait mangé Coé. Alors, j'ai vu les photos du Palais Vivienne et j'ai découvert un truc sur Chalençon. En fait, les vieux bibelots qu'il achète dans Affaires conclues, c'est pas pour les revendre. Il les met chez lui, en fait. Hein. Il y a sûrement une Sophie d'avant empaillée dans son salon qui traîne à quelque part.
Oh mon Dieu. Pierre-Jean Chalençon qui a affirmé dans une interview en février être obligé d'organiser ce genre de dîner pour gagner un peu d'argent. Les menus proposés allaient, je crois, de 180 à 500 euros.
Ben tiens, ouais. Si vous voulez, Pierre-Jean, c'est un peu un Coluche nouvelle formule. C'est pas les restos du cœur, c'est les restos du flouze. Voilà. Certains ministres auraient participé à ces dîners. Ça devrait faire un très bon sujet pour enquête exclusive. Foie gras poché, moule à l'escabèche et velouté de butternut. Comment ce cartel des fourneaux attire-t-il nos ministres dans ses filets ? Qui sont ces passeurs qui aident riz de veau et omelette aux truffes à arriver illégalement dans nos assiettes? Peut-on faire cohabiter gestes barrières et andouillettes? Zoom sur ces restaurateurs qui font tourner la police en bourriche. Gros plan sur cette économie souterraine où tout le gratin se bouscule pour manger du gratin. C'est pas fini. Toutes ces questions et aucune réponse, c'est ce soir dans Blanquette Exclusive.
Blanquette Exclusive.
Pas mieux.
Oh là là.
Pas mieux.
Vous mangez vraiment des mons chéris?
Non, je hais ça. Et s'il pouvait ne pas nous en envoyer.
Ah, pitié, merci à on n'en veut pas. On n'en veut pas.
Envoyez-les à Europe 1.
Bon, on se retrouvera jeudi. Demain, c'est
Valérie Trier-Veller.
Valérie Cabrera qui sera avec nous. C'est ça. Allez, merci beaucoup.
Salut.
Tout de suite, Robert Rue est l'invité d'RTL Soir et vous allez être surpris de découvrir pourquoi.
RTL Soir.
Thomas Soto,
RTL Soir.
Robert Rue est avec nous car il publie un manifeste chez Fayard. Alors non, c'est pas un manifeste programme pour la prochaine présidentielle, pas du tout, c'est bien plus sérieux que ça, puisque c'est un manifeste pour une maladie oubliée. Bonsoir et bienvenue à vous, Robert Rue.
Bonjour.
J'imagine nos auditeurs qui doivent se dire mais Robert Rue, c'est l'ancien patron des communistes, et qui se demandent pourquoi vous vous aventurez sur le terrain médical. Rappelons peut-être pour commencer que vous êtes infirmier de formation et que tout part de là chez vous.
Oui, je suis infirmier hospitalier de formation et beaucoup, effectivement, de cet engagement de départ a inspiré ce que j'ai fait ensuite, y compris sur la justice sociale.
Ouais.
Et puis bon, j'ai été touché profondément par une maladie génétique. J'ai perdu une nièce
à qui je
dédie ce livre, d'ailleurs, et qui de la mucoviscidose. L'autre aspect, c'est naturellement qui m'a conduit à cet engagement, c'est mon rapport à l'Afrique,
Alors, c'est quoi cette maladie oubliée? C'est quoi?
Écoutez, c'est une maladie peu connue ici, oubliée.
C'est la drépanocytose.
C'est la drépanocytose. Ouais. C'est une maladie génétique. C'est la première maladie génétique au monde. C'est une maladie qui est en fait une mutation de l'hémoglobine du sang qui fait qu'à un moment donné, il n'y a plus d'oxygène dans les organes. Les gens sont dans des douleurs exceptionnellement graves, dures. On dit que c'est les douleurs les plus importantes en matière de pathologie. Et bon, il est évident que cette maladie, on la connaît pas ici. D'ailleurs, beaucoup de vos auditeurs, pour la première fois, entendront parler de drépanocytose.
On connaît ce nom, mais on ne sait pas ce qu'il y a derrière. C'est une maladie qui ravage l'Afrique particulièrement.
Elle touche principalement l'Afrique, mais ce n'est pas une maladie des Noirs.
Oui.
C'est une maladie longtemps d'ailleurs à peser. C'est un pensé, c'est inconscient un peu racial, mais la réalité, c'est qu'elle touche principalement l'Afrique parce que c'est une zone tropicale, c'est sa proximité avec toutes les zones de malaria.
Oui.
Cette maladie, en fait, elle protège à un moment donné contre la malaria. Puis ensuite, ça s'inverse et ses conséquences sont considérables.
Elle tue 100 000 enfants par an en Afrique.
Oui.
15 millions de cas. Pour donner un ordre de comparaison, c'est évidemment, on ne peut pas comparer les maladies, les drames, mais 15 millions de cas, 26 millions pour le VIH en Afrique.
Oui, c'est ça. C'est ça. Vraiment, et voyez la différence. Le rapport, d'ailleurs, entre les moyens mis pour cette maladie, pour ça, qu'on ne peut pas soigner. C'est une maladie génétique. Pour le moment, on ne la soigne pas. On peut atténuer la douleur. Peut-être on y reviendra. Mais on ne la soigne pas. Et cette maladie, elle tue énormément. Et principalement les enfants. Elle est 50% des enfants de moins de 5 ans drépanocytaires meurent de cette maladie.
Alors qu'est-ce que vous voulez dire dans ce livre? Pourquoi un manifeste? C'est parce qu'une maladie qui touche principalement l'Afrique, c'est une maladie qui n'intéresse pas la recherche. Pourquoi? Pourquoi ce manifeste aujourd'hui? Pourquoi ce cri? C'est un cri, ce livre.
Ah oui, c'est un cri de colère et d'espoir. En fait, cette maladie, on l'oublie parce que ce n'est pas une maladie infectieuse, à la différence du sida ou même du coronavirus.
On est avec.
Pardon ?
On est avec.
On est avec, c'est ça. C'est une maladie génétique. On est du fait de gènes pathogènes des deux parents, la mère et le père. Et donc, très vite, il y a une anémie forte et puis on meurt. Alors, La question importante que vous me posez, pourquoi on l'ignore ici ? C'est parce que on se sent pas concerné. Mm. Vous savez, on risque pas d'attraper cette maladie en quelque sorte. C'est, à mon avis, c'est complètement fou parce que quand la première maladie génétique au monde, on la laisse comme une partie du monde à l'écart. L'Afrique est mise en fait à l'écart dans cette affaire, avec des conséquences qui seront très très importantes à terme. Parce que il est clair, on le voit bien avec le coronavirus, on le voit bien avec beaucoup de pathologies actuelles, que l'essentiel de ce qui va concerner la santé mondiale va être lié aux maladies génétiques. Mm. Et donc là, cette maladie génétique, on la connaît pas, mm. on l'ignore.
C'est une autre façon de faire de la politique pour vous, de ce livre-là ?
Ah oui, c'est une autre façon, c'est un engagement qui est d'une autre nature. Oui. Et j'ai beaucoup réfléchi à cela. C'est un engagement qui pose aussi de grandes questions politiques. La drépanocytose et le fait qu'elle soit oubliée alors que c'est cette pathologie majeure pose un problème de prise en compte des maladies dans le monde. Et donc, il y a là quelque chose qui doit être dépassé. Le prix Nobel de chimie, oui. Madame Charpentier, française, mais qui travaille en Allemagne ouais. mais cette femme, elle a en fait eu son prix Nobel sur quoi ? Sur ce qu'on appelle le ciseau moléculaire. Oui. C'est exactement ce qu'elle a expérimenté à partir de la maladie drépanocytaire. Quand on avancera sur ces maladies génétiques, mmh. on va en même temps avancer sur le cancer. D'ailleurs, je me posais la question...
Donc vous dites, faisons de la recherche pour eux, ça nous aidera nous, c'est ça en
mais
fait
complètement, mais si on pense un seul instant que cette maladie, de la laisser concerner l'Afrique, les Africains, on peut être tranquille, on se trompe.
Donc vous dites quoi ? C'est un message à qui ? C'est un message au laboratoire pour dire allez-y faites de la recherche, c'est un message aux chercheurs.
C'est un message à... Les chercheurs font beaucoup, oui. mais il faut leur donner des moyens. Ils n'ont pas de moyens. Vous évoquiez tout à l'heure le rapport qu'il y a entre cette maladie, la drépanocytose, et le sida. 15 millions de drépanocytaires, 26 millions de gens qui ont le sida en Afrique. Mais les moyens financiers mis pour... Et c'est bien... pour les maladies infectieuses, telles le paludisme, sont mille fois supérieures à ceux que l'on met pour la drépanocytose.
Mmh. J'ai une dernière question. Si un jour on vous proposait de devenir ministre de la Santé, je sais que vous êtes rangé de la politique, tout ça, mais est-ce que vous considéreriez la question, vous qui rêviez d'être médecin ?
Oui, mais écoutez, on me l'a proposé il y a très très longtemps. Oui. Non, je crois qu'aujourd'hui, mon engagement, il est un engagement humaniste. Oui. Il est un engagement aussi, vous évoquiez, Thomas Soto, la politique. Je crois que la politique politicienne, vous engagerez pas désormais, c'est moi qui parle, j'ai baigné dedans.
Deux fois candidat à la présidentielle.
Oui, oui, deux fois. Mais on n'engagera plus les jeunes générations sur ces pratiques politiques.
Donc là, si je vous demande si le PC doit avoir un candidat l'année prochaine, vous dites que vous vous en foutez ?
Non, je m'en fous pas. Je pense que quand on n'est pas présent dans une élection pareille, c'est un problème.
Donc
la question que je... Non, je crois que vraiment, il faut maintenant d'autres formes d'engagement des jeunes générations. Et c'est sur des causes comme celle-là qu'on peut s'engager. En servant ces causes-là, on le voit bien, ces causes rencontrent l'adhésion des jeunes générations, alors qu'ils se foutent de la politique politicienne aujourd'hui. Donc, c'est ça qu'il faut. Et nous avons surtout deux projets en Afrique. Maintenant, immédiatement, on va former à partir de juin prochain des médecins, des infirmières à la drépanocytose avec un diplôme universitaire à Diamniadio au Sénégal, et également on se bat pour l'accès aux médicaments qui puissent alléger les souffrances.
Et puisqu'ils existent, ces médicaments, et puisque vous êtes également à la tête de l'ONG DREP Afrique, que vous avez fondée. Merci Robert Hue. Votre manifeste pour une maladie oubliée est publié chez Fayard. C'est une façon on ne peut plus utile de faire de la politique. Merci à vous d'être
venu
ce soir dans RTL Soir. La Corée du Nord ne participera pas aux Jeux Olympiques de Tokyo. Julia Molcou non plus, mais elle reste la médaille d'or de la culture de l'actu. Elle arrive, Julia.
RTL Soir.
Thomas Soto,
RTL Soir.
Julien Molcou, bonsoir.
Bonsoir Thomas, bonsoir à tous.
La Corée du Nord a annoncé son retrait des Jeux Olympiques. Ils n'iront pas à Tokyo, l'occasion de parler des JO, mais dans la culture.
Eh bien, c'est l'hymne olympique composé par le grec Spyros Samaras pour les Jeux d'Athènes en 1896, les premiers de l'ère moderne. Une renaissance des Jeux que l'on doit au français Pierre de Coubertin, pour qui il n'y avait pas que le sport dans la vie. mais il y avait la culture aussi. C'est pourquoi entre 1912 et 1948, eh bien, les Jeux Olympiques comptaient aussi des catégories artistiques. Musique, architecture, peinture, sculpture et littérature étaient au programme. Et en toute simplicité, Coubertin nomma cette compétition le pentathlon des muses.
L'architecture et la sculpture et la littérature au JO, je ne savais pas.
Et bien alors, pour participer à ce pentathlon des muses, les artistes devaient présenter un travail inédit et en rapport avec le sport. Autant vous dire que ça n'emballait pas les plus grands d'entre eux. D'ailleurs, malgré cette Olympiade, il reste assez peu de choses de ces travaux, si ce n'est bah, une médaille d'or en littérature pour Pierre de Coubertin. Oh. Parce qu'on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Il avait écrit un poème en prose qui s'appelait « Ode au sport ». Au sport, plaisir des dieux, essence de vie, tu es apparu soudain au milieu de la clairière. Bref, je crois que vous avez compris. Ouais.
Alors ça c'est joli, c'est du Jean-Philippe Rameau, c'est ouais. L'air des athlètes, je le lis hein, parce que je ne le savais pas, extrait de l'opéra Castor et Pollux.
Voilà, et en fait cet air est considéré comme ayant fixé les bases de ce que doit être la musique à la gloire des sportifs, c'est-à-dire célébrer la force et l'agilité. Et le meilleur exemple qu'on en ait aujourd'hui, il date de 1984 avec le compositeur américain Philip Glass. C'est sur son œuvre à lui que la flamme olympique de Los Angeles fut allumée.
Bah, mais pas Jean-Philippe Rameau qui veut. Il y a aussi les chansons d'ouverture et de clôture à chaque fois.
Oui, deux cérémonies qui sont souvent l'occasion de grands moments, comme en 88 à Séoul avec Whitney Houston et pas Jean-Philippe Rameau.
C'est pour les Jeux, ça ? Elle était belle, celle-là.
88 à Séoul.
Ah, ouais.
Et
Corée du Sud, pour le coup, parce qu'on parlait de la Corée du Nord.
Oui. Voilà, et en 96 à Atlanta, eh bien, le grand moment musical, on le doit à Stevie Wonder qui avait repris Imagine de John Lennon en hommage aux victimes des attentats perpétrés quelques jours avant à Atlanta. Enfin, c'est bien à l'auteur de We Are The Champions que la chanson d'ouverture des Jeux de Barcelone en 92 avait été confiée. Freddie Mercury, le leader de Queen, a donc écrit Barcelona, dont il partageait la partition avec la cantatrice espagnole. Malheureusement, cette chanson incroyable, le duo ne la chanta qu'une seule fois en direct. Et c'est cette version qui fut projetée sur grand écran lors de l'ouverture des Jeux de Barcelone, quelques mois après la disparition de Freddie Mercury.
C'est l'instant juste.